Imagination, une série d'entretiens proposés par Alain Prochian, neurobiologiste, professeur au Collège de France.
Nous sommes dans la grille d'été sur le programme Imagination avec des philosophes, des sociologues et des savants et des artistes sur le thème probablement rassembleur entre les scientifiques et les artistes. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on a en tout cas pensé la chose. Et j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Alain Cohn. Alors Alain Cohn est un très grand mathématicien. Il est professeur du Collège de France où il a occupé la chaire analyse et géométrie. Il est récipiendaire de la plus grande récompense qu'on puisse avoir en mathématiques, qui est la médaille Field. Et il a cet intérêt non seulement pour les mathématiques, bien entendu, mais aussi pour la musique et pour l'art, qui fait qu'il est vraiment une des personnes qui peut faire le lien aujourd'hui très fort entre art et science sur un mode qui n'est pas un mode plat, mais ce qui est un mode qui est, engage intellectuellement celui qui fait de l'art ou celui qui fait de la science, c'est-à-dire une véritable réflexion sur le sujet de l'art et le sujet de la science. C'est un spécialiste de ce qu'on appelle la géométrie non commutative. Et si je dis ça, c'est probablement parce que ce n'est pas étranger à son intérêt pour le temps et à travers l'intérêt pour le temps, son intérêt pour la création musicale. Alain, j'ai le devoir d'essayer d'extraire de toi, pas tout parce que c'est inépuisable, mais en tout cas des éléments de réflexion sur cette question de la science, des mathématiques, de la beauté en mathématiques et de son lien avec la beauté artistique.
Oui. En fait, donc, j'ai un peu réfléchi en ce qui concerne simplement l'imagination. Et la première chose qui m'a frappé, c'est que finalement, la radio, comme moyen de communication, est un moyen qui est beaucoup plus intéressant au niveau de la concentration de l'auditeur, au niveau de l'écoute, justement, qu'un autre moyen de communication comme la télévision. Pourquoi ? Parce que l'imagination, dans le terme imagination, il y a les images, et il est extrêmement important que l'auditeur n'ait pas un rôle purement passif, ne reçoive pas l'image telle qu'on veut la lui imposer, mais soit capable lui-même de la créer et de la créer à partir du discours, à partir du langage. Donc, c'est la première chose qui m'a frappé, c'est à quel point une émission de radio est beaucoup plus appropriée pour parler de l'imagination que si on essayait de l'illustrer directement. La deuxième chose qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est en quel sens les mathématiciens ont une utilisation de l'imagination qui, a priori, est très différente, très très spéciale, très différente de ce qui se passe dans les autres domaines. C'est ça que je veux essayer d'expliquer. Donc, ce que je veux dire, c'est que un mathématicien utilise beaucoup l'imagination, mais il l'utilise d'une manière très spéciale. C'est-à-dire qu'en fait, le premier rôle de l'imagination pour un mathématicien, qui est un rôle essentiel, c'est celui de créer des images mentales. Et dans ce rôle-là, en fait, bien sûr, bien entendu, ce n'est absolument pas quelque chose de passif. C'est un, comment dire, on ne peut y arriver véritablement que lorsqu'on sèche sur un problème. Donc il y a une vertu essentielle, pour un mathématicien, c'est, par exemple, s'il est en train de lire un bouquin, c'est de prendre par exemple un théorème qui est dans un livre, etc. Et surtout, de ne pas regarder la démonstration, mais d'essayer de démontrer lui-même. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il fait cela, en fait, il va créer dans son cerveau, je dis une image mentale, mais en fait, c'est pas c'est très rarement, c'est pas toujours quelque chose de géométrique, c'est pas toujours quelque chose qui peut se décrire comme une image, mais c'est un certain assemblage dans son cerveau qui ensuite va faire que lorsqu'il sera confronté à une page de formule, eh bien cette page de formule va lui parler. Et cette page de formule, dans cette page de formule, il va voir des acteurs, il va voir des choses qui vont résonner entre elles, etc. La comparaison que j'ai toujours envie de prendre, c'est que, supposez par exemple que vous soyez dans le métro et que vous voyez un passager du métro ou une passagère du métro qui est en train de lire une partition de musique. Quand on n'est pas musicien, cette partition de musique ne nous dit rien, rien du tout. Quand on n'est pas mathématicien et qu'on voit un passager en train de lire des formules de maths, on a l'impression que, qu'on est complètement exclu et qu'on n'a aucune chance de comprendre. Et en fait, la raison, c'est justement cette fabrication d'image mentale. Et cette fabrication d'image mentale, elle implique de manière absolument essentielle cette capacité d'imaginer. Cette capacité d'imaginer, elle joue un rôle absolument fondamental. Et je donne toujours le conseil suivant par exemple à un jeune mathématicien. Le conseil, c'est si on est confronté, par exemple, à un calcul même très difficile, etc. Bien sûr, c'est des calculs abstraits, etc. La bonne méthode, ça n'est pas de se ruer sur l'ordinateur pour essayer de faire le calcul ou de prendre une feuille de papier et de calculer. Non. La bonne méthode, c'est de partir pour faire un tour à pied et d'essayer de se débrouiller avec ce qu'on a pour justement, en y réfléchissant, créer dans le cerveau ces images mentales. Et peu importe la complexité du problème, peu importe le caractère impossible au départ de cette création, c'est en séchant et justement en s'appropriant progressivement des objets mentaux qui vont correspondre au problème qu'on va progresser. Donc il y a une part active qui est absolument essentielle. Et de mon point de vue, c'est ça vraiment le rôle fondamental de l'imagination en mathématiques. En ce sens-là, c'est très différent d'autres domaines, parce que bien sûr, lorsqu'on fait de la physique et qu'on parle de l'univers, chacun a une image mentale au départ de ce que c'est que l'univers. Donc, on va pas avoir besoin de créer quelque chose à partir de rien. Alors qu'en maths, vraiment, on est confronté à cette chose-là. Donc, de mon point de vue, il y a ce point essentiel qui est qu'on doit être actif. Et on est d'autant plus actif que l'on ne nous donne pas un modèle déjà préétabli. Et si, par exemple, on était à la télévision, on essaierait d'illustrer des concepts mathématiques par des images, mais chaque mathématicien, chaque personne est un cas particulier et va créer dans son cerveau une image très particulière, un assemblage très très particulier. Et il est impossible de donner une forme générique.
Mais quand tu parles d'image mentale, oui. Je pense qu'à un certain niveau, même en dehors des mathématiques, il y a un moment où on a besoin d'avoir recours à cette espèce de fabrication d'image mentale,
tout à fait.
De briques que l'on manipule, qu'on emboîte, qui ne s'emboîtent pas.
Bien sûr.
Et ça, c'est peut-être parce que justement, la pensée mathématique est la seule façon de penser en dehors des formules. Ce n'est pas uniquement des formules, c'est une façon de réfléchir, oui. Qui est une langue naturelle pour le savant, d'une certaine façon.
Tout à fait, mais oui.
Donc, oui. La question que je vais te poser, oui. Pour éclairer un petit peu, pour oui. moi d'ailleurs, mais aussi oui. peut-être pour ceux qui nous écoutent, c'est quelle est l'image de ces images mentales. Ça ressemble oui. à quoi, une image mentale?
Bon, alors, d'abord, il y a les images mentales les plus simples, bien entendu. C'est-à-dire que si on parle de la géométrie ordinaire, par exemple la géométrie plane, il y a un théorème que j'aime beaucoup, c'est le théorème de Morley. Donc là, l'auditeur doit essayer d'abord d'imaginer un triangle. Alors, chaque auditeur va imaginer un triangle différent, mais peu importe. D'accord? Donc, on part d'un triangle. Et que dit le théorème de Morley? Que dit le théorème de Morley? C'est qu'on découpe chaque angle du triangle en trois parties égales. Donc, en trois angles égaux. Bon. Et on intersecte les droites correspondantes. Bon. On obtient un triangle à l'intérieur, en général, du triangle dont on est parti. Et la merveille, c'est que le triangle qu'on obtient à l'intérieur est toujours un triangle équilatère. Ça, c'est merveilleux. Bon, c'est ce qu'on appelle le théorème de Morley. Et quand on a énoncé ce théorème, on a une image mentale, bien sûr. Et en fait, l'image mentale que l'on a est bien meilleure que si on dessinait sur un papier un triangle et qu'on ait dessiné le triangle équilatère au milieu. Pourquoi? Ben parce qu'on serait automatiquement perturbé par le grain du papier, par le crayon avec lequel on a écrit, etc. Donc là, il y a déjà une abstraction qui s'est produite. Mais il y a un point essentiel justement en mathématiques. Il y a un point essentiel, c'est que j'ai pu vous expliquer ce que c'était qu'une image mentale très simple dans le cas de la géométrie plane. Mais en mathématiques, on manipule des géométries qui sont bien plus compliquées que ça et qui, en général, sont des géométries qui sont de dimension bien plus grande que 3 et même, en général, de dimension infinie. C'est-à-dire, on a compris, grâce à la physique, par exemple, que la mécanique quantique, c'est une mécanique qui se produit dans un espace qu'on appelle l'espace de Hilbert et qui est un espace de dimension infinie. Alors, comment se fait-il que le mathématicien puisse avoir accès à cet espace de dimension infinie? C'est ça la question, c'est une question essentielle. Et cette question essentielle, en fait, elle a une réponse. Elle a une réponse très, très, très fondamentale. Cette réponse, c'est la dualité entre la géométrie et l'algèbre. Alors, pour l'expliquer, je vais prendre un exemple. Prendre un exemple plus simple que le théorème de Morley. Supposons, par exemple, qu'on soit frappé par le fait que les médianes d'un triangle se rencontrent en un point. Bon, alors ça va bien lorsqu'on fait dans la géométrie plane, on voit bien ce que c'est. On a un énoncé analogue lorsqu'on va dans la géométrie dans l'espace. Mais qu'en est-il lorsqu'on regarde une géométrie en dimension arbitraire? Ça paraît impossible, parce que comment est-ce qu'on va se représenter un espace de dimension 4? Un objet correspondant à un triangle en espace de dimension 4, etc., ou en dimension plus grande? Ben, la réponse, elle est merveilleusement simple. C'est que la manière de comprendre dans le langage algébrique, par une formule, pourquoi les médianes d'un triangle se rencontrent, c'est simplement d'écrire les coordonnées de ce qu'on appelle le barycentre de 3 points. C'est-à-dire, on prend les coordonnées des points, et puis on fait leur somme, on les divise par 3, parce qu'on est en dimension 2. Si on était en dimension 3, on diviserait par 4, et ainsi de suite. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est que lorsqu'on a... C'est un peu comme les deux hémisphères du cerveau, c'est-à-dire il y a l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Ils communiquent entre eux. C'est l'hémisphère droit qui a l'image mentale du triangle, comme je vous l'ai expliqué au début, c'est-à-dire qu'il le voit, qu'il voit le triangle de Morley, etc. Et puis après, on communique avec l'hémisphère gauche. Dans l'hémisphère gauche, il y a une formule. Cette formule qui permet, et cette formule, elle est complètement insensible à la dimension. C'est-à-dire que, une fois qu'on l'a écrite en dimension 2, elle va exister en dimension 3, en dimension 4, et même en dimension infinie. Donc, il y a une merveille qui se produit, qui est que, en mathématiques, on est capable d'escalader, précisément parce que il y a quelque chose qui permet de renforcer l'image mentale, qui permet de lui donner une sécurité, et c'est la formule. Et une fois qu'on a cette formule, après, on va fonctionner dans un autre mode. Et ce mode n'est plus le mode visuel, et c'est pour ça que la notion d'image mentale est réductrice, parce que elle réduit tout à une vision géométrique. Or, en mathématiques, il y a une dualité entre justement la géométrie et l'algèbre, c'est-à-dire que d'un côté, on a cette vision géométrique, et en général, la vision géométrique, c'est quelque chose qui va s'imposer immédiatement. C'est-à-dire, on a une figure, cette figure va vous parler, mais elle va vous parler tout de suite. Alors que l'algèbre, c'est autre chose. Et c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Et c'est quelque chose dans lequel les calculs vont se faire algébriquement. Et j'avoue que moi, je suis par exemple persécuté. La nuit dernière, je me suis réveillé, je me suis dit, est-ce que dans telle formule, je ne me suis pas trompé? Pourquoi? Parce que mon cerveau continue à fonctionner et il continue à faire les calculs, etc. Et ça, c'est quelque chose qui se déroule dans le temps et qui n'est pas du tout de la même nature qu'une image mentale statique, une image géométrique qui, elle, existe et est figée une fois pour toutes, qu'on comprend de manière immédiate.
Mais les images mentales ne sont pas forcément statiques. J'imagine qu'on les bouge, on les retourne,
on peut les combiner. On peut les bouger, on peut les retourner. Il y a le retournement de la sphère, par exemple, qu'on voit.
Mais ne prenons pas n'importe comment. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une grammaire de la combinatoire des images mentales? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est permis dans la manipulation des objets mentaux, de ces images, qui fait que ce n'est pas n'importe quoi? C'est-à-dire que,
bien sûr,
qu'il y a une sorte de grammaire derrière.
Il y a bien sûr une grammaire derrière. Je pense que sans doute une des facettes les plus importantes de la grammaire, c'est le pouvoir de l'analogie et puis ensuite de la métaphore. Mais je pense que l'analogie, c'est quelque chose d'extraordinairement puissant et qui pour le moment est tout à fait inaccessible à des procédés comme le machine learning, l'intelligence artificielle, etc. Donc c'est un outil extraordinaire.
Pour toi, c'est l'intuition, l'analogie?
Non, c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se produit, justement, à travers les images mentales, c'est qu'à un moment donné, le cerveau s'aperçoit que deux images mentales qui paraîtraient extrêmement loin les unes des autres, c'était ce qui était arrivé à Poincaré lorsqu'il montait dans le bus. Donc, des images mentales extrêmement éloignées les unes des autres. Hein, je veux dire, il parlait de deux choses complètement différentes. En fait, il s'est aperçu à un moment donné qu'il y avait des ressemblances extraordinaires entre les deux. Et le fait qu'il y a eu ces ressemblances extraordinaires entre les deux a fait que, après, il a pu développer une analogie entre deux domaines qui, a priori, n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et alors, une analogie, c'est quelque chose qui est extrêmement délicat à manipuler parce que c'est pas un simple dictionnaire. Si c'était un simple dictionnaire, ce serait rasoir. C'est-à-dire, si on pouvait dire telle chose correspond à telle autre chose, etc., etc. Non. C'est une espèce de... Il y a un mathématicien japonais qui s'appelle Oka qui l'avait merveilleusement décrit. C'est une espèce de transplantation. C'est une espèce de... On a une petite fleur et très délicatement, on essaye de la transplanter à notre endroit. Et pourquoi c'est quelque chose d'incroyablement fécond et efficace? C'est parce que, en général, justement, les choses que l'on comprend d'un côté, on les comprend pas de l'autre, et inversement. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir transplanter la compréhension qu'on a d'un côté et voir comment, en essayant, on fait des essais, on voit, etc. Mais il faut surtout pas, à ce moment-là du développement, il faut surtout pas essayer d'être trop rigoureux. Parce que si on est trop rigoureux, tout va s'effondrer. Et c'est un moment qui a un aspect qui justement est poétique et artistique, etc. Pourquoi? Parce que quand on transplante des petites fleurs, quand on fait ce procédé-là, si on essaye d'être trop intelligent, trop rapide, etc., on va dire, ça va pas marcher. Et ça va pas marcher pour telle raison, etc. Et à ce moment-là, on abandonne et on a tout gâché.
C'est une notion de correspondance, en fait.
Voilà, c'est une sorte de correspondance, d'analogie. C'est quelque chose où il y a... Et on ne peut pas essayer de la codifier de manière trop précise au moment où on la découvre. Au moment où on la découvre, c'est quelque chose d'extrêmement fragile. Et cette fragilité-là fait que si, par exemple, au moment où on la découvre, on essaye de la dire... Il faut savoir que les mathématiciens sont des gens très durs. C'est-à-dire que, en mathématiques, le rêve est exclu. Je vais y revenir là-dessus. Mais si on a perçu une analogie entre deux sujets, et si on essaye de manière trop rapide, trop prématurée, de la dire, elle va être détruite. Donc, il y a une partie du développement d'une nouvelle théorie, comme ça, dans laquelle on doit se protéger. On doit se protéger, c'est comme un petit enfant qui doit être protégé, etc. Et seulement au bout d'un moment, quand il aura fait ses preuves, quand il aura grandi suffisamment, là on pourra le dévoiler.
Ça veut dire qu'il faut que tu laisses mûrir, l'analogie, mûrir la correspondance, pour que ça soit suffisamment solide pour affronter en fait l'épreuve de vérité.
L'épreuve de vérité. Voilà. Alors l'épreuve de vérité est quelque chose de terrible. Donc ce qu'il faut savoir, quand je parlais de l'imagination en mathématiques, naïvement, on pourrait croire que l'imagination en mathématiques, c'est imaginer des choses et puis essayer de les démontrer, etc. Mais en fait, il y a un carcan en mathématiques qui est absolument terrible et qui, je pense, est largement semblable à celui de la physique, mais d'une manière très différente. C'est-à-dire, en fait, en mathématiques, ce qui se produit, c'est qu'on peut avoir de l'imagination, on peut imaginer une nouvelle théorie, etc. Mais le problème, c'est que très vite, on va se heurter à une réalité qui est la réalité mathématique. Et cette réalité mathématique, elle est terrible, au sens où, je veux dire, si on n'a pas tous les éléments d'une démonstration, si on n'a pas, par exemple, je veux dire, la possibilité de vérifier les choses sur un ordinateur, etc., on se rend compte, en fait, que la liberté dont on jouit est absolument minimale. Absolument minimale. Donc, c'est pour ça que j'insistais sur le fait que le rôle de l'imagination en mathématiques, ce n'est pas d'imaginer de nouvelles choses, etc., pas du tout, c'est de créer une image mentale à l'intérieur du cerveau. Là, ça sert vraiment. C'est quelque chose d'essentiel. Par contre, après, il y a un tel carcan au niveau de l'imagination par rapport à d'autres sujets. Je pense aux artistes, je pense aux romanciers, etc. Ce carcan est tellement dur, tellement contraint, qu'en fait, ça empêche, ça annihile justement toute possibilité de liberté.
Très bien. Nous allons peut-être passer à une première variation sur un air allemand de Chopin, joué par Nikita Magaloff, voilà. Sur lequel tu nous feras un petit commentaire,
voilà,
j'espère.
Exactement, voilà. Bien sûr. Oui, oui.
Culture, imagination, Alain Prochian.
Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi
est-ce que j'ai choisi cet air?
Cette variation.
Bien sûr, par l'interprétation de Nikita Magaloff, que j'aime beaucoup. Mais en fait, ma raison est une raison très personnelle et qui a à voir, comment dire, avec la structuration de l'imaginaire de l'enfant. Ce que je vais dire, c'est quelque chose de très personnel, donc, mais peu importe, je pense que c'est quelque chose de générique. C'est-à-dire, en fait, mes deux grands-parents du côté de ma mère viennent de Constantine, en Algérie. Ils étaient originaires de cette ville. Et mon enfance a été bercée par le fait que, justement, ma grand-mère maternelle était pianiste. Et elle était orpheline, parce qu'elle était devenue orpheline à l'âge de 6 ans. Ses deux parents étaient morts. Elle était en Algérie. Elle avait été recueillie dans un couvent. Et elle me racontait souvent, quand j'étais gamin, quand j'étais tout petit, des histoires de son père. Et son père, quand elle était toute petite, lui avait offert un piano. Il lui avait joué sur le piano la partie des variations de Chopin, qui est si belle, pas le tout début, mais le thème majeur, et qui est introduit par Nikita Magaloff de manière incroyable, parce que c'est un morceau qu'on pourrait interpréter comme un morceau de technique, mais pas du tout. En fait, il a compris exactement à quel point l'exposition du thème devait être précédée par un ralentissement, etc., et à quel point le thème est beau. Et en fait, mon enfance a été bercée par cet air, et que j'ai eu beaucoup de mal à retrouver ensuite, lorsque j'ai écrit la généalogie de la famille. Et donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je pense que l'imaginaire d'un enfant est structuré très tôt par, en particulier, la musique, et par, cette fois, l'imaginaire au sens naïf de ce que l'enfant peut imaginer quand il entend des histoires comme celle-là. Donc, je ne suis jamais allé à Constantine. En fait, je ne suis jamais allé en Algérie. Mais j'ai toujours eu, dans ma tête, une image extrêmement intéressante, en fait, justement, de ce moment dans lequel le père de ma grand-mère, qui était médecin, en fait, lui avait offert ce petit piano et le rôle que ça a joué.
Et est-ce que ça a un rapport avec la façon de penser en mathématicien ?
Ben, disons que il est très connu, hein, chaque mathématicien est différent, donc je ne veux pas faire de généralité, mais en fait, il est très très admis qu'en général, les mathématiciens sont très intéressés par la musique, à défaut forcément d'être musicien, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps lorsqu'on est mathématicien, donc si on veut pratiquer un instrument, c'est quelque chose qui occuperait trop de temps, mais en général, ils sont très sensibles à la musique, et c'est vrai. C'est vrai, je continue ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une analogie très très forte entre l'algèbre et la musique. Par le déroulement dans le temps, j'explique toujours, bien sûr, le fait que le langage lui-même, le langage que nous utilisons tout le temps, est non commutatif, puisqu'on ne peut pas permuter les lettres entre elles, à moins de faire des anagrammes. Mais donc, il y a toute une relation très forte, effectivement, entre... la musique et l'algèbre, je pense.
Et donc la temporalité.
Et la temporalité, bien sûr, donc, bien
tu
entendu.
Peux, tu peux nous expliquer un peu cette question de la temporalité, un petit peu la géométrie non commutative,
oui.
Comment ça se met là-dedans?
Oui, bien sûr. Alors, disons qu'on a écrit deux livres avec Dany Chérault, qui est mon épouse, et puis Jacques Dixmier, qui était mon professeur de thèse. Et justement, dans ces deux livres, on a continué ce thème qui est un thème essentiel dans ce que j'ai fait dans ma vie de scientifique, et qui a démarré par la découverte du fait que lorsqu'on fait de l'algèbre, mais de manière non commutative, c'est-à-dire que on ne s'autorise pas de permuter les lettres entre elles. Alors, bien sûr, c'est quelque chose qui est essentiel parce que c'est ce qu'a trouvé Heisenberg lorsqu'il a découvert la mécanique quantique. Donc, lorsque Heisenberg a découvert la mécanique quantique, il a compris que lorsqu'on traite de systèmes tout petits, de systèmes microscopiques, en fait, contrairement à ce qu'on fait lorsqu'on fait de la physique classique, où on écrit E égale MC2 ou égale C2M, c'est la même chose, lorsqu'on travaille avec un système microscopique, on n'a plus le droit de permuter les lettres. Et ça, c'est extraordinaire. Il a fait une découverte fantastique. Et d'ailleurs, il a fait cette découverte à 4h du matin alors qu'il était isolé sur l'île de Heligoland. Et ce qui est merveilleux, en fait, c'est à quel point les découvreurs arrivent à transmettre dans leurs écrits, Heisenberg l'a fait dans ses mémoires, l'extraordinaire vision qu'il a eue au moment où il a fait cette découverte. Et il a dit que c'était une vision qui était effrayante, parce que du fait qu'il était le premier à voir cela, en fait, il a eu devant lui un paysage qui était presque tout le paysage, et qui était effrayant. Et il le décrit merveilleusement. Et il n'est pas le seul à avoir été capable, justement, en étant le premier découvreur, à transmettre cela. Bon, alors, de mon côté, donc, ce que j'avais perçu, si vous voulez, c'est que, en fait, lorsqu'on fait de l'algèbre non commutative, eh bien, automatiquement, bon, c'est un certain type d'algèbre qui a été découvert par von Neumann, automatiquement, l'algèbre elle-même secrète son propre temps. Donc, le fait que l'algèbre soit non commutative sécrète le temps, le passage du temps. Et ça, c'est quelque chose d'absolument bouleversant, d'une certaine manière. Et pendant des années et des années, j'avais été fasciné par ce fait-là. Bien sûr, mathématiquement, ça a un tas de conséquences, parce que, par exemple, l'algèbre a des périodes, etc. Mais j'avais toujours été incapable d'avoir une idée de comment cette trouvaille, si vous voulez, pouvait trouver sa place en physique. Et donc ça... C'est le sujet de notre premier livre qui s'appelle Le théâtre quantique et publié chez Odile Jacob et dans lequel justement on a essayé avec nos deux co-auteurs de transmettre cette trouvaille mais de telle sorte qu'elle puisse être perçue par le public. C'est difficile. Et dans le deuxième livre, alors le spectre d'Atacama, on a été beaucoup plus loin au sens où là, on a essayé de transmettre justement ce lien entre les formes et la musique, qui est un lien aussi extrêmement important et qui dit que lorsqu'on essaye, par exemple, d'expliquer où nous nous trouvons dans l'espace, eh bien, en fait, on se trouve confronté à un problème mathématique qui n'est pas du tout trivial, qui n'est pas du tout évident, qui est le problème de pouvoir donner à un espace ou une forme, de manière plus générale, de manière invariante. Et ce que les mathématiques nous enseignent, c'est que si on veut donner une forme de manière invariante, la première chose qu'une forme nous procure, nous donne, c'est une gamme musicale. Ça paraît quelque chose de tout à fait étonnant. Donc, une forme nous procure une gamme musicale qui s'appelle un spectre. Et après, donc, il y a, bien sûr, à partir de là, il y a tout un développement. Et le deuxième livre s'appelle Le spectre d'Atacama, précisément parce que ce qui se produit, et qui est tout à fait étonnant, c'est que, alors qu'on peut calculer le spectre de forme ordinaire, donc, si on regarde un espace comme un tambour, c'est Mark Katz qui avait depuis longtemps avait posé le problème, si vous voulez, est-ce qu'on peut entendre la forme d'un tambour? C'est-à-dire, un tambour a des vibrations, lorsqu'on tape sur un tambour, il ne faut pas croire qu'on obtiendra toujours le même son. C'est ce que savent faire les gens qui jouent de la batterie, par exemple. Donc, on a des sons très différents, mais ces sons forment une gamme. Et une question évidente, c'est est-ce qu'on peut reconnaître la forme du tambour à partir de la gamme? Alors, c'est une question qui a une réponse mathématique. Mais la chose vraiment étonnante, c'est que alors qu'on peut calculer la gamme d'un objet géométrique, d'une forme géométrique que l'on connaît, il existe des spectres. Donc, j'identifie le spectre, si vous voulez, avec la gamme en question. C'est parce que la gamme, disons, c'est une gamme de fréquences, par exemple. Donc, ces fréquences, on va les représenter par des raies spectrales. Et il y a un problème qui se pose de manière absolument insolente. C'est qu'en fait, il existe des spectres qui apparaissent complètement naturellement. Et où on a vraiment une difficulté considérable, mais bon, dans certains cas on y arrive, à retrouver la forme physique dont le spectre est le spectre. Et alors, il y a un exemple qu'on explique et qui justifiera le deuxième morceau de musique dont je parlerai tout à l'heure, mais il y a un exemple qu'on explique en grand détail dans le livre, c'est ce qu'on appelle le spectre de la guitare. Alors, je vais essayer de l'expliquer, mais à nouveau, il faut que l'auditeur se prépare à construire lui-même des images mentales dans ce que je vais expliquer. Donc, la première image mentale, c'est imaginer une guitare. Bon. Donc, vous avez une guitare. Vous avez sans doute vu des guitares, donc vous pouvez imaginer dans votre tête ce que c'est qu'une guitare. Je n'ai pas besoin de vous la montrer. Alors, si vous regardez une guitare, vous allez voir sur le manche de la guitare des raies qui sont perpendiculaires au manche et qu'on appelle des frettes. Alors, si vous regardez attentivement ces frettes, vous allez voir, regardez-les dans votre tête, vous allez voir qu'au départ, il n'y a pas de frettes, il y a une espèce de trou bon, qui va permettre des résonances, etc. Puis après, les frettes commencent. Et elles ne sont pas du tout espacées de manière régulière, pas du tout. On aurait pu penser que simplement, lorsqu'on regarde le manche de la guitare, les spectres vont être espacés également. En fait, elles ne sont pas du tout espacées également. Et le mathématicien, quand il voit l'espacement des frettes, il se pose tout de suite la question, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas espacé les frettes de manière égale? Alors la réponse, c'est une réponse mathématique, mais c'est une réponse qui est merveilleuse, parce qu'elle va nous donner un spectre, et ce spectre, après, on va devoir chercher la forme dont c'est le spectre. Alors d'abord, quel est ce spectre? Quel est ce spectre? Eh bien, quand on fait de la musique, on s'aperçoit d'une chose très importante, qui est que l'oreille n'est pas du tout sensible à 1, 2, 3, 4, 5, etc. Elle n'est pas sensible au elle est sensible, en fait, à multiplier une fréquence par quelque chose. C'est-à-dire, si on prend une fréquence et on la multiplie par 2, ça correspond au passage à l'octave. L'oreille est sensible au passage à l'octave. Elle ressent une correspondance entre les deux fréquences. Elle ressent une harmonie entre les deux fréquences. C'est la multiplication par 2. L'oreille est également sensible à la multiplication par 3. Quand on prend une fréquence et qu'on la multiplie par 3, l'oreille entend une résonance, elle entend quelque chose qui correspond. Alors maintenant, comment ça explique le spectre de la guitare? Ça explique le spectre de la guitare parce que lorsqu'on élève le nombre 2 à la puissance 19, on obtient pratiquement le nombre 3 élevé à la puissance 12. Ça peut pas être une égalité. Ça peut pas être une égalité parce que quand on élève 2 à la puissance 19, on n'obtient que des nombres pairs. Alors que quand on élève le nombre 3 à la puissance 12, on n'obtient que des nombres impairs. Donc ça peut pas être une égalité. En fait, ce qui se produit, c'est que si on regarde la racine 12e de 2, c'est un nombre qui veut 1,05, etc. Et c'est pratiquement la même chose que la racine 19e de 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en musique, ce qu'on a fait avec les frettes de la guitare, c'est qu'on s'est arrangé pour faire croire que ces deux nombres étaient égaux. Et le 12 en question, c'est les 12 tonalités de la gamme bien tempérée. Et toute la musique est basée là-dessus. Et qu'est-ce que c'est que le spectre de la guitare? C'est les puissances du nombre qui est la racine 12e de 2 et qui est pratiquement la racine 19e de 3. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et alors, on se trouve là confronté devant un problème, parce que on a de manière évidente ce spectre est devant nous, et on se demande quel est l'objet dont il est le spectre. Alors quand on est mathématicien, on a un tas d'outils pour regarder ça. Pourquoi? Parce que quand on regarde le spectre qui correspond au tambour, ou le spectre qui correspond à une forme qui est de bidimensionnelle, qui a deux dimensions 2, on s'aperçoit que sa gamme, elle croît comme une parabole. Si on regardait un objet dimension 3, ça croîtrait avec une puissance 3, etc. Et alors, on regarde maintenant le spectre de la guitare. Ah, il est extrêmement bizarre. Parce que si on calcule sa dimension en utilisant ce que je vous ai dit avant, on obtient que c'est un objet de dimension 0. Un objet de dimension 0 au sens où sa dimension est plus petite que tout nombre, non nul, mais positif. Ah. Alors, la merveille, c'est que, en fait, il y a un objet dont le spectre, c'est le spectre de la guitare, mais c'est un objet de géométrie non commutative. Donc, si vous voulez, on retombe sur ses pieds. Et alors, en fait, le livre qu'on a écrit sur le spectre d'Atacama, c'est un livre qui est entièrement basé sur essayer de comprendre un spectre. Ce spectre a été observé par l'observatoire d'Alma au Chili. Et tout le livre, c'est... Il y a un héros, enfin il y en a plusieurs, il y a trois personnages essentiels. Il y a un mathématicien, il y a une physicienne qui était là dans le premier livre, qui a échappé d'un séjour quantique. Et tout le livre est basé sur essayer de comprendre ce spectre mystérieux.
Dans le désert d'Atacama.
Dans le désert d'Atacama.
Donc, nous allons écouter maintenant voilà. Salut d'amour.
Absolument.
De Elgar.
D'Elgar.
Joué par Isaac Perlman. Et après, nous reprendrons
bien sûr
notre discussion. Thank you.
France Culture, Imagination, Alain Prochian.
Après ce salut d'amour, je rappelle que nous recevons aujourd'hui, dans le cadre de la série d'interviews sur le thème Imagination, Alain Cohn, mathématicien et professeur du Collège de France, titulaire de la chaire Analyse et Géométrie. Alain, je crois que tu voulais t'exprimer
Voilà. Pourquoi j'ai choisi cette ère? C'est pour illustrer exactement ce que je disais tout à l'heure, mais la différence entre le violon et la guitare. Donc la guitare, j'ai parlé du spectre de la guitare et des frettes sur le manche de la guitare. Bon, c'est bien évident, quand on a un violon, on n'a pas de frettes. Et la difficulté extraordinaire du violon vient du fait que justement, on n'a pas un spectre discret au sens mathématique, c'est-à-dire... On n'a pas, si vous voulez, un déplacement infinitésimal du doigt sur le manche du violon va faire toute la différence. Et cette interprétation de Dirac Perman est merveilleuse, et c'est pour ça que je voulais qu'on l'écoute, elle est merveilleuse par l'infinie précision qu'il arrive à avoir dans les sons qu'il produit. Mathématiquement, ce qu'on dit, si vous voulez, c'est que la différence entre la guitare et le violon, c'est que la guitare a un spectre discret, que j'ai expliqué tout à l'heure. Le violon a un spectre continu, mais il y a dans le spectre du violon la même difficulté que dans la guitare, c'est-à-dire il y a une échelle exponentielle. C'est-à-dire que lorsqu'on passe d'une note à l'autre, naïvement on croirait qu'il faut le faire en espaçant les doigts de manière égale. Non, il faut le faire de manière exponentielle, puisque ça correspond aux puissances du nombre d'avant. Donc en fait, il y a toujours, entre deux violonistes, il y a des différences infinitésimales. Et cette interprétation d'Isaac Perman est, de mon point de vue, une merveille. Parce qu'il y a des toutes petites nuances, infimes, que l'oreille perçoit, bien sûr. Et qui font que cette interprétation est merveilleuse.
Merci beaucoup, Alain Cohn. J'aurais voulu revenir un tout petit peu sur la question du mathématicien.
Oui.
Et il y a des mathématiciens qui... La question de la démonstration, en fait. Parce que il y a les conjonctures.
Conjectures. Oui.
Et c'est pas... Comment ça vient, une conjecture?
Oui, bien sûr.
Et comment on peut passer, après, du travail de la conjecture, de cette conjecture, à la démonstration de la chose, et ce sont deux façons différentes de faire des mathématiques, ce sont deux types d'esprits mathématiques différents.
C'est toujours étonnant, effectivement, ce qui se produit avec les conjectures, c'est-à-dire, en fait, un mathématicien découvre quelque chose de totalement nouveau. L'exemple que j'ai en tête, bien sûr, c'est, on en parle beaucoup dans le livre, c'est Riemann, au siècle dernier, au 19e siècle, plus précisément, c'est pas le siècle dernier, 19e siècle, qui a fait une découverte absolument phénoménale. En fait, il a trouvé que on pouvait comprendre les nombres premiers, donc on pouvait comprendre l'aléatoire des nombres premiers, l'aléatoire c'est pas du tout contrôlé, à partir d'une fonction qui s'appelle la fonction de zeta. Et après avoir démontré une formule, donc il donne une formule exacte, si vous voulez, pour le nombre de nombres premiers plus petit que n. C'est pas tellement le fait qu'il y ait une formule exacte, parce qu'il en existe d'autres, mais c'est le fait que cette formule, en fait, décrit exactement le comportement des nombres premiers. Et il s'est aperçu, en fait, dans cette formule là, qu'il a démontré, qu'il y avait une musique des nombres premiers. C'est-à-dire, en fait, il a montré qu'il y avait un terme dominant qui est facile à comprendre, parce qu'en gros, les nombres premiers deviennent de plus en plus rares, comme l'inverse du nombre de chiffres du nombre qu'on regarde. Donc quand on regarde les nombres premiers, par exemple, entre 10 000 et 100 000, ou entre 100 000 et 1 million, la proportion va être divisée par deux. Donc en fait, cette chose-là, si vous voulez, ce phénomène-là, conduit à une fonction qu'on appelle le logarithme intégral, et qui est effectivement le premier terme dans la formule de Riemann. Mais après, l'aléa des nombres premiers se manifeste justement par un spectre. Et se manifeste justement parce qu'on pourrait appeler la musique des nombres premiers. Alors en fait, quand Riemann a trouvé ça, il s'est aperçu, en faisant des calculs, il a fait des calculs, il s'est aperçu que les zéros de sa fonction, qui gouvernent justement le spectre, avaient l'air d'être tous sur une certaine droite. Et le fait qu'il soit sur cette droite joue un rôle essentiel, parce que le fait qu'il soit sur cette droite dit que la formule qu'il a donnée est une formule extrêmement précise. S'il y en avait qui étaient en dehors de cette droite, il y aurait une espèce de chaos qui s'introduit et ce serait pas du tout quelque chose d'agréable. Et il a conjecturé que tous ces zéros étaient là. Cette conjecture, elle a été faite, donc, dans les années 1850-1860. Donc, ça fait un temps considérable qu'elle a été faite. Mais je pense que lui était pratiquement sûr que c'était vrai. Et en gros, il dit il voulait continuer. Et faire une conjecture, c'est être pratiquement sûr qu'un résultat est vrai et aller au-delà. Alors maintenant, cette conjecture de Riemann, elle a été vérifiée avec l'ordinateur, parce qu'avec l'ordinateur, on peut aller très très loin, en fait. On a une manière de calculer qui est très très efficace pour cette fonction, et on l'a vérifiée pour des milliards de zéros. Donc, au niveau vérification, on a une indication très forte. On ne sait pas si elle est vraie, parce qu'il y a d'autres conjectures qui avaient l'air d'être vraies comme ça, mais qui ne sont pas vraies pour des nombres très très grands. Donc on ne sait pas si elle est vraie, mais la manière dont il l'a trouvée, c'est qu'il n'avait pas envie de s'arrêter là, si vous voulez, et il avait envie d'aller plus loin. Et bon, après lui, il y a eu un très grand nombre de mathématiciens qui s'y sont intéressés. Il y a eu, par exemple, des mathématiciens qui, lorsqu'ils prenaient l'avion, etc., envoyaient une lettre en disant « j'ai démontré », etc., en pensant que si l'avion se cassait la gueule, à ce moment-là... On... Donc, il y a toutes sortes d'histoires autour de cette conjecture. Mais disons que ce qu'elle a d'extraordinaire, ce qu'une conjecture comme celle-là a d'extraordinaire, c'est qu'en fait, secrètement, elle a motivé la plupart des développements les plus intéressants en mathématiques au XXe siècle. C'est-à-dire que si on connaît suffisamment de choses en mathématiques, on s'aperçoit que derrière une quantité de développements qui n'ont a priori rien à voir avec la conjecture, en fait, étaient motivés par celle-là. Un exemple typique, c'est toute la théorie des fonctions presque périodiques de Bohr, le footballeur, le frère du physicien. Donc, je veux dire, c'est étonnant. Et à ce propos-là, et ça, on l'explique en détail dans le livre, ce qui est important de savoir, c'est que un mathématicien devant un problème a toujours une technique qui fait qu'il n'est pas désarmé. Et quelle est cette technique? C'est une technique très intéressante qui, je pense, s'applique pas seulement aux mathématiques, elle s'applique en fait à toutes sortes de domaines, et c'est pour ça que je veux l'expliquer. C'est une technique qui consiste à dire, devant un problème fixé, par exemple la conjecture de Riemann, au lieu d'être là à regarder le problème et puis d'être incapable de faire quoi que ce soit, non. Ce qu'on va faire, c'est la première chose qu'on va faire, c'est quelque chose de criminel de certaine manière, c'est-à-dire on va prendre le problème et on va le généraliser. Alors ça paraît complètement idiot, parce que ça paraît complètement idiot de remplacer un problème particulier par un problème beaucoup plus général. Et l'exemple qu'on prend dans le livre, c'est l'exemple des tablettes de chocolat. C'est-à-dire qu'on est là, on vous regarde, et puis on vous demande quelle est la manière optimale de casser une tablette de chocolat de 6 x 8, par exemple, en petits carreaux. Bon. Et alors, l'intérêt de généraliser, c'est que on va maintenant pouvoir spécialiser le problème généralisé à des cas beaucoup plus simples. Ça, c'est formidable. C'est formidable, parce que si vous êtes confronté au problème d'une tablette de 6 x 8, vous êtes complètement coincé, parce que vous dites, mais c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais. Par contre, vous remplacez 6 et 8 par n et m. Ça paraît bizarre. Mais maintenant, vous prenez n égale 1, m égale 3. Vous avez une tablette de 3 carreaux. 3 carreaux. Bon, ben, pour la casser, c'est pas très difficile. Donc, en fait, en mathématiques, on fait ça, et on a fait ça pour l'hypothèse de Riemann. Et ça a été quelque chose d'extrêmement fructueux, parce que c'est ça qui a permis à André Weil, justement, de démontrer là, une généralisation qui avait été faite, et de démontrer que c'était vrai dans ce cas-là. Donc ça donne confiance. Ça donne confiance, et en général, justement, ça permet de donner un point d'ancrage pour ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'analogie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a démontré un cas particulier du problème généralisé, on a un outil extraordinaire qui est l'analogie. C'est-à-dire, on s'imagine que la démonstration qu'on a faite dans le cas particulier va pouvoir se transplanter, je dis pas transposer, je dis se transplanter, comme je parlais tout à l'heure, avec les petites fleurs qui sont très fragiles. Donc, va pouvoir se transplanter au cas auquel on est vraiment intéressé. Donc, le pouvoir, en fait, créateur des conjectures n'est pas du tout négligeable. C'est une espèce de manière d'avoir vu plus loin que les autres. C'est une manière d'avoir vu plus loin que les autres, et après, bon, ben, après, il faut rentrer dans le dur, c'est-à-dire, il faut essayer de démontrer.
Mais les conjectures sont toujours démontrées?
Non, pas du tout. Il y en a qui sont fausses, bien sûr.
Et si on travaille sur une conjecture qui est fausse et qu'on en tire des résultats intéressant.
Ah ben c'est très bien. C'est très
ensuite,
bien.
On démontre qu'elle est fausse.
Non, mais en fait, ce qui se produit en mathématiques, c'est qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect de, il y a un problème. Est-ce que ce problème est résolu ou non? Ça, c'est bon, c'est un aspect des mathématiques, mais il y a un aspect qui est largement aussi important. C'est l'aspect d'édifier des théories. Et par exemple, Grothendieck était très connu justement pour lorsqu'on lui posait une question, etc. Il essayait toujours de formuler la question dans le bon cadre et ensuite d'édifier une théorie qui fasse en sorte que la question se résolve par elle-même. C'est Serre qui a employé la meilleure métaphore par rapport à ça. Il disait que quand on lui posait un problème comme ça, il essayait de le laisser se dissoudre dans une marée montante de théorie générale. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. Donc en fait, il y a l'impulsion qui est donnée par une question comme une conjecture, etc. Très souvent, justement, l'aspect le plus créateur, le plus positif d'une conjecture, c'est l'édification des théories qui vont permettre soit de la résoudre, soit de dire qu'elle est fausse. Je veux dire, ça peut très bien arriver. Et en fait, ce qu'on veut, c'est savoir la vérité. Ce qu'on veut, c'est connaître la vérité. On ne veut pas, nécessairement démontrer, bien sûr. En fait, d'ailleurs, dans le livre, on raconte une histoire que je ne veux pas louper, parce que le livre, le spectre d'Atacama, se termine sur cette histoire. Cette histoire, c'est l'histoire d'un mathématicien vieillissant, pensez à qui vous voudrez, qui s'est attaqué pendant des années à une conjecture, et qui finalement décide, parce qu'il voit qu'il n'a plus beaucoup de temps devant lui, de vendre son âme au diable pour connaître la réponse. On dit au départ pour connaître la réponse.
C'est une histoire connue, ça.
Pas
vendre son âme au diable, en tout cas.
Bien sûr. Vendre son âme au diable, c'est un phénomène connu. Mais dans ce cas-là, ce qui se produit, c'est assez étonnant, parce qu'il finit... par avoir rendez-vous avec le diable, et d'ailleurs le diable est incarné par le machine learning. Donc il finit par avoir rendez-vous avec le diable, et puis lorsqu'il rencontre le diable, il rencontre dans une banlieue malfamée de Naples, et le diable commence par lui faire signer les papiers, comme quoi il a vendu son âme au diable. Et le mathématicien ne se rend pas compte que du fait qu'il a signé les papiers et qu'il a donné son âme au diable, il va changer de comportement. Donc le diable lui dit « Mais bon, quel est votre souhait maintenant? Il faut que vous donniez votre souhait. » Et le mathématicien dit « Je souhaite que l'hypothèse de Riemann soit fausse. » Et c'est seulement quand il rentre chez lui qu'il réalise qu'en fait, ce qu'il vient de dire... C'est parce qu'il avait vendu son âme et que donc, au lieu de souhaiter qu'elle soit vraie, etc., il avait souhaité qu'elle soit fausse.
Cher Alain, je pense que nous allons bientôt clore cet entretien qui était vraiment passionnant. J'aimerais te poser une question.
Oui.
Est-ce que les mathématiques sont pour toi une langue naturelle?
Alors, je pense que non seulement c'est une langue naturelle, mais je pense que c'est la seule langue qui nous permettra de communiquer avec une intelligence extraterrestre. Et ça rejoint le livre, mais désolé de le mentionner trop, mais ce qui se produit dans le livre, justement, c'est que ce message qui est reçu et qui est le spectre d'Atacama, il est reçu en alternance avec les nombres premiers. Et une intelligence terrestre, un mathématicien, ne peut pas manquer de reconnaître une intelligence extérieure à nous et qui se manifeste par cette compréhension qui est extraordinaire, qui a été faite par Riemann au 19e siècle. Donc, ce que je prétends, et il y a un langage qui a été inventé qui s'appelle le Linkos, mais ce que je prétends, c'est qu'on pourra communiquer justement avec les extraterrestres grâce au langage mathématique. Pourquoi? Parce que c'est le seul langage qui n'est pas autoréférentiel. C'est-à-dire, c'est le seul langage qui, contrairement à un dictionnaire ordinaire qui, quand on cherche la définition d'un mot, fait référence à un autre mot qui lui-même fait référence à un autre mot, etc., n'est pas autoréférentiel.
Et ce langage est composé, donc, pour revenir au point de départ, d'images mentales?
Non, ce langage est composé au départ, par exemple, de signaux qu'on envoie de manière spectrale ou qu'on envoie de manière répétitive,
mais
etc.
Mais toi, quand tu penses?
Ah, quand je pense, bien sûr, je pense à travers des images mentales, bien entendu.
Tu ne penses jamais en langue naturelle?
Non. Non, la langue naturelle, je veux dire, c'est une langue qui, après, péniblement, essaye de transcrire nos images mentales, nos manières de penser, etc. Mais je dis péniblement parce que, en général, j'arrive pas à transmettre ça de manière vraiment satisfaisante. J'essaye de manière orale, etc. Il y a des gens qui sont vraiment forts pour le faire. Et je pense en particulier à Grothendieck. Grothendieck était capable, lorsque ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire une idée pas encore mûre, était capable de se mettre à écrire sur elle. Et ça, c'est quelque chose de... C'est une...
Ça la faisait mûrir.
Ça la faisait mûrir. Mais je pense que c'est pas donné à tout le monde d'être capable d'écrire sur une idée qui n'est pas encore mûre et de la faire mûrir. Je veux dire, c'est quelque chose qui est
de
pas du tout évident.
De la sortir.
De la sortir de son écrin, de son cocon. Et il y a une autre chose que je voulais dire quand même avant qu'on termine. C'est, je sais pas si ça a été mentionné dans une autre, un autre dialogue sur l'imagination, mais il y a un exemple extraordinaire. C'est l'exemple de Eureka d'Edgar Poe. Donc, cet exemple, c'est quand même merveilleux de savoir qu'un poète a pu, au 19e siècle, avoir l'intuition, pas seulement du Big Bang, mais du fait que l'univers pouvait ensuite avoir un Big Crunch, etc. Et qu'il a pu être moqué, il a été moqué pendant plus d'un siècle, jusqu'à ce que finalement, on s'aperçoive qu'en fait, il avait raison. Mais il avait raison par une intuition purement géniale et purement poétique.
Voilà, mais écoutez, je pense que c'est... La meilleure façon de terminer cet entretien avec, je le rappelle, Alain Cohn, titulaire de la chaire Analyse et Géométrie du Collège de France. Merci Alain d'être venu aujourd'hui et à bientôt.
Imagination par Alain Prochian. Prise de son d'Ali Yaha, réalisation Christine Robert, assistée de Delphine Derbier, stagiaire.